Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
Bonjour et bienvenue sur la Grande Tchatch, l'émission politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Un seul invité aujourd'hui, et quel invité ? Jean-Marc Rouillant, ancien membre d'Action Directe, ce qui vous a valu d'ailleurs de passer 25 ans en prison. Vous êtes aujourd'hui en liberté conditionnelle, vous vivez à Marseille, et on aura l'occasion d'en parler. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, vous avez également vos débuts dans le cinéma avec un road movie. Bonjour Jean-Marc Rouillant.
Bonjour.
En première partie de l'émission, nous parlerons de l'état d'urgence, des libertés publiques, de la sécurité au tout sécuritaire. Et en deuxième partie, ça sera plus local avec Marseille, la politique à Marseille, les quartiers nord, la politisation de ces quartiers nord où justement l'abstention atteint des records. Avant ça, Jean-Marc Rouillant, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
C'est une sacrée ruse de l'histoire. Communiste libertaire, farouche partisan de l'action collective, hostile à toute forme de mandarinat, de starification, vous voilà maintenant héros de cinéma où vous interprétez votre propre rôle. Cette actualité, celle du film « Il faut savoir se contenter de beaucoup », vous vaut même les honneurs de la presse bourgeoise et d'un portrait élogieux dans le Libé de la multinationale Altice. Et vous voici aujourd'hui comble du comble sur la radio Bobo, d'une friche culturelle, invité par un journal gentiment satirique à la ligne idéologique aussi incertaine que confuse. Jean-Marc Rouillant, ne vous déplaise, vous n'êtes pas un militant ordinaire. Sans doute parce que la mémoire d'Action Directe, sa lutte armée, ses attentats, son logiciel politique guerrier reste toujours autant vive que clivante. Certainement aussi parce que, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour terrorisme, vous avez passé un quart de siècle en prison, dont 7 ans, en isolement total. Peut-être enfin parce que l'enfer carcéral vous a meurtri, mais ne vous a pas brisé. Vos livres, écrits derrière les barreaux et après votre libération, en témoignent avec talent. Militant révolutionnaire, vous étiez. Militant révolutionnaire, vous demeurez. Placé en liberté conditionnelle depuis 2012, vous restez sous surveillance étroite. Vous êtes assigné à résidence à Marseille où vous travaillez dans une entreprise d'exportation de bois. Vous êtes interdit de séjour dans 38 départements. Vous n'avez pas le droit d'évoquer les faits pour lesquels vous avez été condamné ou de tenir des propos pouvant être interprétés comme une apologie de la lutte armée ou du terrorisme. Mais en fin de compte, dans la France, en état d'urgence, aux accents sécuritaires et martiaux, nous sommes peut-être finalement tous, comme Jean-Marc Rouillant, en liberté conditionnelle.
Jean-Marc Rouillant, une réaction à ce portrait ? Nous sommes tous en liberté conditionnelle ?
Oui, j'ai la chance, du moins individuellement, j'ai la chance de le savoir. Je pense que la majorité des personnes dans notre société vivant sous la menace des parachutistes en permanence, je crois que les gens ne le savent pas, ils ne se rendent pas compte.
Ben, expliquez-nous, les parachutistes
parce
en permanence.
Parce que la Légion urbaine, c'est pas très loin.
Oui, j'ai été très impressionné. Vous savez, quand ils passent à la gare, bon, on est habitué maintenant à la gare. Ils nous ont soumis à cette vision de la guerre qu'ils ont. Dans les années 70, on disait toujours « ramener la guerre ici ». C'est-à-dire la guerre que font les impérialistes et les pays occidentaux dans les autres pays. Nous, on disait « on ramène la guerre ici ». C'est une seule guerre et on la ramène ici. Et aujourd'hui, c'est eux qui le font grandiosement. C'est-à-dire, l'autre jour, j'étais vraiment impressionné par une descente de la Légion, au moins 15 légionnaires en position de combat sur la place des Réformés. Place Stalingrad, quand même, il faut rappeler, cette grande victoire antifasciste. Et de les voir menaçant les passants, parce que c'est pas le mec, le chasseur alpin qui se balade avec son fusil normalement. Là, c'était la Légion, et il faisait les trottoirs comme ça, et il se déplaçait en tirailleur sur le haut de la Canebière. C'est impressionnant. Ça ne peut pas rester, on ne peut pas rester insensible à ça, quoi.
Vous avez évoqué tout à l'heure les années 70, des années que vous avez bien connues, puisque c'est à cause, c'est ces années-là qui vous ont valu, après vos engagements, qui vous ont valu la prison. Dans Libé, il y a quelques jours, vous avez eu cette phrase « Je viens d'un monde qui n'existe plus ». Alors, qu'est-ce qui a changé, Jean-Marc Rouillant ? Qu'est-ce qu'on ne verra plus ? Qu'est-ce qui a disparu ?
Qu'est-ce qui a disparu ?
Oui.
Bah, c'est une étape du capitalisme. On est dans une autre étape du capitalisme. Le capitalisme est mondial et global. Ça change énormément de choses. Aujourd'hui, la lutte de classe et la guerre de classe et la guerre civile permanente et mondiale. Elle est plus seulement dans des zones industrialisées, autour des grandes usines, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous sommes en plein chaos et pour très longtemps, et en pleine guerre pour très longtemps.
Vous avez parlé de guerre civile. Vous estimez que vous, aujourd'hui, en France, nous sommes en guerre civile ?
Ben oui. Autrement, il n'y aurait pas les parachutistes dans la rue. Il ne faut pas nous faire croire que c'est pour empêcher les attentats suicides qu'il y a des milliers de soldats dans les rues en France. On se prépare, ils se préparent. Ils se préparent à de nouveaux conflits. Ils se préparent à une nouvelle flambée des banlieues qui sera beaucoup plus dure, beaucoup plus forte que celle qu'il y a eu en 2005.
Alors, votre regard sur l'actualité du moment, c'est-à-dire cette loi, plutôt cette réforme constitutionnelle qui a du mal à se mettre en place, hein, mais qui va probablement aboutir malgré tout, qui inscrit finalement l'état d'urgence dans la Constitution, une étape de plus.
Pour moi, c'est, je l'ai défini comme crime contre le peuple. Bon, j'aime pas l'expression trop peuple, parce qu'en fait, c'est pour les classes les plus défavorisées de ce pays qui n'ont pas plus d'action peuple avec les autres classes intermédiaires de ce pays. Donc, c'est un crime contre les gens qui n'ont plus rien et qui bientôt n'auront plus rien à perdre. Et je pense qu'on va droit dans le mur parce qu'ils ne pourront plus payer bientôt les retraites, ils ne pourront plus payer le RSA, et là, il va se passer vraiment des choses. Et on est en train, c'est-à-dire, ce sont des gens de gauche, comme dans les années 20 et 30 du siècle passé, ce sont des gens qui se prétendent de gauche, qui ne sont plus depuis bien belle lurette, qui arment l'État policier, qui arment l'État réactionnaire qui est en train de se former dans ce pays.
Vous dites aujourd'hui que les socialistes qui sont au pouvoir, au gouvernement, ne sont pas de gauche et eux aident à la réaction, pour utiliser le vocabulaire.
Ils le reconnaissent, oui. Et comme les socialistes allemands ont favorisé la montée d'Hitler. Et c'est une donnée permanente. C'est une donnée permanente. La social-démocratie est un allié objectif du fascisme et de la réaction. Surtout de la réaction, parce que le fascisme, c'est un parti de la bourgeoisie qui est très moderniste, alors que nous avons affaire dans notre pays à un État ultra réactionnaire. C'est pour ça que je dis, sans rougir, le Front National n'est pas un parti fasciste, c'est un parti ultra réactionnaire. C'est-à-dire religieux, catho, raciste, ce qu'était l'Action française avant-guerre. Et les croix de feu. Voilà.
Alors, on peut revenir au Front National, mais les attentats de contre Charlie Hebdo, puis l'hypermarché Kacher, puis les attentats de Paris en novembre, est-ce que ceux qui les ont commis rendent service à cet état sécuritaire ? Parce que l'opinion publique aujourd'hui approuve massivement les réformes en cours. En tout cas, laisse faire. On ne voit rien. Hein, on voit pas les gens se lever vis-à-vis de ces réformes.
Première réponse. Je pense que les aviateurs français qui bombardent
l'Irak et en Syrie
favorisent Daesh. Ça, c'est certain. Quand on bombarde une école, on lève 2000 combattants de Daesh. Ça, c'est certain. Ça se court sur le net et ça lève des combattants dans les banlieues. Ça, c'est certain aussi. La guerre que se livre un État qui s'appelle Daesh à un État français, c'est une guerre interbourgeoise, assez classique, sauf que, comme toujours, comme en 1985, la guerre France-Iran, l'Iran ne pouvait pas bombarder Paris, donc ils ont levé des commandos qui ont frappé Paris. Voilà. Et c'était la même chose. Les exocètes français frappaient la banlieue de Téhéran. L'Iran répond par des commandos qui vont frapper en France. Voilà, ça c'est de la logique, c'est simplement des techniques de combat. Enfin,
Jean-Marc Rouillon, là, vous expliquez, vous donnez un début d'explication qui est la vôtre, mais vous ne justifiez pas les attentats.
Non, moi je suis neutre.
Pourquoi cette neutralité justement ?
Parce que ça ne me concerne pas, c'est une guerre entre une bourgeoisie, la bourgeoisie sunnite, surtout représentés par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc, visiblement, la France ne veut pas en terminer avec Daesh, puisqu'autrement, elle frapperait l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est le même problème toujours par rapport au trafic de drogue. On va aller frapper les quartiers nord de Marseille pour 10 kilos, 100 kilos, une tonne, et on laisse les généraux marocains faire leur fortune sur le trafic du cannabis. Non, mais c'est toujours l'hypocrisie de ne jamais s'attaquer à la racine des problèmes. C'est habituel. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on voit que le Qatar finance une Daesh, et que tout le monde le sait, et en même temps organise dans nos banlieues des centres de religion, mais on rêve quoi? Où en est?
Non, mais quand vous dites vous êtes neutre là-dessus, est-ce qu'on peut réellement être neutre vis-à-vis de ce qui se passe?
Oui, moi je pense que l'État français est un État colonialiste, assassin. Rien que ce qui s'est passé en Algérie m'empêchera toujours, toute ma vie, de chanter la Marseillaise et de mettre le bleu, blanc, rouge. Voilà, parce que 1 million de morts, des disparus, de la torture, l'horreur. Et venir se présenter comme la patrie des droits de l'homme, c'est... Ils l'ont fait à Madagascar, ils l'ont fait dans tous les pays qu'ils ont colonisés. Et de l'autre côté, donc je suis neutre par rapport à cet État. Jamais je serai de son côté.
En même temps, est-ce que c'est pas la destinée des États? Parce que bon, vous parlez de l'État français qui est le nôtre, qui a commis des... Mais... On s'est tous battus, on va indiquer, pour le Vietnam par exemple, le Vietnam a commis les mêmes atrocités vis-à-vis de ses voisins, etc. Il y a l'Algérie également vis-à-vis de certaines populations du Sud. Il y a toujours...
On n'a pas inventé des méthodes, l'Algérie n'a pas inventé des méthodes de torture et de disparition des prisonniers politiques, ne l'a pas exporté en Amérique du Sud, ne l'a pas utilisé au Vietnam et c'est... Franchement, le fait d'être neutre, et je ne suis pas plus de Daesh, pour Daesh, que je serais pour cet État français. L'État français s'est construit, l'État français moderne, s'est construit à la Troisième République. D'abord, sur le massacre de la Commune, c'est-à-dire 30 à 40 000 ouvriers parisiens massacrés, et sur la phase de colonisation. Et ces deux marques perdurent jusqu'à aujourd'hui.
Alors d'accord, mais je reviens sur la question à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu, hein, c'est-à-dire que vous avez contextualisé les raisons qui ont conduit aux attentats, hein, vous avez donné des éléments. La question c'est, est-ce qu'objectivement, on n'est pas forcé de constater que ces attentats donnent des arguments à un État policier pour durcir ses politiques et les justifier, et permet d'emporter avec lui l'opinion publique? Et peut-être au-delà, pour préciser la question, que pensez-vous de cette revendication qui s'appuie quand même sur une représentation rigoriste de l'islam, conduisant finalement à tuer des gens qui vont écouter de la musique ou qui...
Donc, de toute façon, pour répondre à la première partie de la question, c'est, je vais dire simplement, il y a deux écoles de pensée. Les gens pensent que les lois spéciales viennent d'attentats minoritaires. C'était valable pour nous à notre époque. Et d'autres, comme moi, qui pensent que les lois spéciales viennent de la passivité des gens. Les gens sont passifs. On a tout accepté. Et je l'ai vu, j'étais effaré de voir comment on a accepté l'installation de l'état d'urgence, le renouvellement de l'état d'urgence.
Jean-Marc Rouillan, je vous interromps, mais à votre époque, Action Directe commettait des attentats, certes, il y a eu même des victimes, mais aujourd'hui, on est dans une échelle de masse. Enfin, je veux dire, l'attentat du 13 novembre, c'est plusieurs dizaines de personnes qui ont été massacrées.
Oui, oui, mais
c'est plus la même échelle.
Non, mais c'est technique, c'est pas... nous aurions pu faire ça, c'est le but. Nous aurions pu faire les mêmes opérations. Mais on ne le pouvait pas parce que nous avons d'autres principes, d'autres stratégies, une autre tactique. Le fait qu'ils aient réussi à ça, c'est comme les tours jumelles aux États-Unis. C'est simplement, on a progressé dans la guérilla. Les moyens sont plus importants aujourd'hui. Quand j'entends des gens d'extrême gauche dire « Oh, aujourd'hui, la guérilla, c'est vraiment impossible, ils ont des terribles moyens », mais les gens qui veulent faire de la guérilla, aujourd'hui, ont des moyens extraordinaires. Mais habituellement, je dis toujours Daesh est très proche du capitalisme parce que c'est un mouvement qui est basé sur le mortifère, sur le sacrifice, la mort. Jamais dans la lutte armée d'extrême gauche que j'ai connue, de 68 jusqu'à la fin des années 80, je n'ai connu le sacrifice, jamais, plutôt la joie de les combattre et un immense espoir de lumière et vraiment les lendemains qui chantent. Et je crois qu'ils sont encore devant nous, malgré tout.
D'accord, mais vous avez, au-delà de l'idéologie de Daesh, ces jeunes qui partent, qui adhèrent avec une facilité apparemment déconcertante, puisque le nombre est de plus en plus important et que ça ne s'arrête pas. Est-ce que vous avez, vous, le logiciel pour lire cet engagement-là?
Tout d'abord, d'un point de vue de l'islam, ils sont impies. C'est dur qu'un laïc leur dise ça. C'est-à-dire, en allant au-delà de ce qu'a fait l'armée du prophète, par exemple, quand l'armée du prophète a gagné toutes ses batailles dans la région, jamais ils sont allés massacrer les religions fossiles, les chrétiens qui étaient dans la montagne là, qui les gênaient pas, jamais ils ont fait des expéditions pour aller les massacrer, comme Daesh le fait. Donc ils vont au-delà de l'armée du prophète. Donc ils sont impies. Chaque fois, je ne suis pas une référence dans le mouvement musulman. Je suis une personne bien intentionnée. Bon, disons qu'il y a des mouvements comme Hezbollah qui pensent que je suis une personne bien intentionnée. Donc déjà, je ne suis pas le haram occidental. Parce qu'il y a peu de gens, pour eux, dans nos pays, qui sont sauvables. Pourquoi on est... Parce qu'il faut voir les gens colonialistes, racistes, quand même l'image qu'on donne au monde entier. Quand un président de la République dit on va suspendre les droits de l'homme dans notre pays, ça veut dire quoi? On va se remettre à torturer si on en attrape un. Marine Le Pen propose de redécouper les kamikazes. Quelle image on donne au monde? Tout le monde dit je prie pour Paris. Bon, les cathos américains prient pour Paris, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Oui, c'est pour ça, je suis vraiment neutre.
Est-ce que vous êtes neutre par rapport à cette idéologie qui motive ces actions et qui est celle du fondamentalisme religieux musulman? Est-ce que ce n'est pas ça, une défaite dans un processus révolutionnaire?
On nous a défait. C'est-à-dire, pour moi, de l'Union soviétique au groupe le plus ultra du mouvement révolutionnaire, on a été défait.
Où est-ce que vous avez failli?
L'ennemi a été très fort. Arrivé un moment, ne pouvant vaincre, ne pouvant gagner la bataille, collectivement, ce n'est pas seulement les groupes armés, la bourgeoisie a pu se restructurer, repenser un modèle. Tout au long des années 70, ils ont essayé de repenser un modèle, avec la trilatérale, avec le premier texte de la trilatérale était basé sur une idée qu'il y avait trop de démocratie dans les États occidentaux. On ne se souvient pas de ça. Aujourd'hui, ils parlent démocratie, mais toute leur base de libéralisme, c'est comment réduire la démocratie dans nos pays. Et donc, le rouleau compresseur est passé par là, dans les années 80, balayant tout sur son passage, même les pays qui sont libérés. Et le dernier bastion qui restait... Un des derniers bastions qui restait, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, qui restait, c'était l'archipel de la révolution nationale arabe. Et ils sont passés, ils ont voulu détruire ça d'une façon systématique. Pourquoi? Pas parce que ça faisait Assad les faisait chier particulièrement. Il avait arrêté tout antagonisme avec les pays occidentaux comme Kadhafi. Non, sauf que la révolution nationale arabe, c'était la nationalisation du pétrole, des sources énergétiques, et il fallait la reconquérir par le fer. Et ils l'ont fait, et ils le font.
ce qu'on appelait, ce que vous avez appelé l'expérimentation révolutionnaire, c'est-à-dire aller au-delà des partis ou voir la limite des partis pour passer à autre chose. En votre cas, c'était la lutte armée. Aujourd'hui, est-ce que vous le voyez venir? Parce que tout à l'heure, en début d'émission, vous avez parlé de guerre civile, etc. Est-ce que vous le voyez venir ça? Ou est-ce que, dans le même temps, dans une interview, vous avez parlé des pépères de la protestation, ces gens qui vont manifester mais qui ne vont pas plus loin? Est-ce qu'on arrive finalement à un abandon total?
Il était très clair que la période des partis, comme elle était entrevue à la fin du 19e tout au long du 20e, est révolue.
Des partis comme des outils pour arriver à...
Non, des partis comme gestion avec un espace national. L'État national a disparu, concrètement. Ce n'est plus qu'une forme de gestion administrative de lois qui sont votées ailleurs. Alors que, par exemple, un parti communiste comme parti populaire, servait à la négociation, comme les syndicats, etc., etc. Aujourd'hui, on le voit dans toutes les zones où se reprend un peu d'offensive. Tout se fait sans ces partis-là. Et ces partis-là disparaissent progressivement et vont... Bon, bien sûr, il y a des nouvelles formes comme Podemos en Grèce, mais je pense que
En Espagne,
oui, je pensais à Syriza en même temps, qui lui a trahi... Podemos a un peu trahi avant d'arriver au pouvoir et Syriza, il a attendu d'être au pouvoir. Mais ces deux formes d'organisation très assembléistes montrent que les gens veulent autre chose, recherchent autre chose et que l'efficacité est dans une autre chose.
Et alors c'est quoi cette autre chose? Comment on pourrait le définir? Vous avez expérimenté jusqu'au bout la lutte armée, puis vous êtes à votre sortie de prison, vous avez intégré un parti, le NPA, c'est-à-dire que vous êtes revenu dans une forme classique, j'allais dire, de proposition.
Oui, de l'extrême gauche, oui.
Voilà, mais dans une forme classique de revendication.
Oui.
Aujourd'hui, un jeune peut se tourner vers quoi quand on voit l'abstention, etc.? Quelle est sa manière d'exprimer son ras-le-bol?
Pauvre jeune. Pauvre jeune se retrouver non seulement abandonné de tous, trahi, amené à pieds et poings liés vers des réserves du protestataire complètement sclérosé. Finalement, je ne sais pas bien ce qui pourrait leur arriver de meilleur aujourd'hui. Moi, j'ai été au NPA, je le revendique. Et je l'ai été parce que j'ai une vie et que je ne pouvais pas faire autre chose que d'être dans un... si je voulais continuer la politique, d'être dans quelque chose de très visible. Parce que si je disparais... une heure de leur écran radar, je suis arrêté le lendemain. Donc, il fallait que je fasse de l'action politique visible. Et quand on a passé un quart de siècle en prison, on a besoin aussi d'énormément de confronter à de nombreuses réalités, de débattre, discuter. Et c'est ce que j'ai fait. Et le NPA m'a servi aussi à ça.
Vous y êtes toujours au NPA, non?
Non, je ne suis plus membre du NPA.
Pourquoi?
Parce qu'au bout d'un moment, il y a certaines positions gauchistes qui me... C'est pas des gauchistes, en plus, ce sont des droitiers. Le mouvement révolutionnaire. On m'accuse déjà d'être centriste.
Et... Là, je vous soupçonne de viser Krivine derrière.
Non, je pense.
C'est
que...
la vieille querelle qui finalement, on est en 2016 et les vieilles querelles idéologiques demeurent. C'est ce qui fait la faiblesse des partis de gauche, non?
On discute plus de principes, de positions complètement, j'allais dire, sclérosées, mais je pense que ça leur va bien, sclérosées. Plus il y avait, moins il y avait de gens de tous les obédiences politiques et le fait qu'ils soient restés entre trotskistes, les trotskistes ont des maladies, des tares congénitale à leur mouvement qui fait que c'est invivable quand on n'est pas de la famille, c'est invivable, quoi. Voilà.
On salue au passage Samuel Joshua qui représente le NPA à Marseille.
Non, il le représente plus là. Maintenant, il est gauche anticapitaliste.
Il est
même conseiller municipal de la mairie de Ravier.
Il est exactement au front de gauche, dans une tendance du front de gauche.
Et là, ça, c'est encore plus merveilleux quand même.
Ensemble, si je ne me trompe pas.
Tout à l'heure, Jean-Marc Rouillon, vous avez évoqué le cas de Podemos en Espagne. Dans les années 70, vous avez lutté contre la dictature franquiste, là encore, lutte armée. Aujourd'hui, dans cette même Espagne qui a connu pourtant Franco, on retrouve un mouvement qui s'appelle Podemos, qui rassemble différents petits partis. Pourtant, il y a une nouvelle expression, il y a de nouvelles personnes. En France, nous n'avons pas pu réunir ça. Jean-Luc Mélenchon se bagarre un peu tout seul, il essaie de faire naître quelque chose. Comment vous expliquez qu'en France, ça ne prend pas ce genre de,
mais justement parce
d'expérience
que... Mais justement parce que tout ce qui peut se passer est repris en main par des personnes qui sont des politiques professionnelles. Comment peut-on croire à un nouveau mouvement avec un secrétaire d'État de Mitterrand et qui a fait les ministères, qui a fait 20 ans de ministère? Comment on veut renouveau à la Podemos avec la vieille garde lambertiste, crypto-lambertiste de... Non, c'est absolument ridicule. On n'arrive pas à se détacher de l'image qu'il faut être un professionnel de la politique. Moi, je suis vraiment un amateur, je reste un amateur. Et j'ai pas envie de devenir ces pros, ces bêtes de politique. Et moi, je l'ai vu parce que ma seule campagne électorale a été pour l'ouvrier de Ford, Philippe Poutou. Et c'était extraordinaire. Chaque fois qu'on voyait un journaliste, il disait « Oui, mais vous, quand même, quelle expérience vous avez pour diriger un parti, pour diriger une... » Mais non. En fait, en France, du journaliste au militant, on ne peut pas accepter qu'un ouvrier, un simple ouvrier de chaîne, se présente à une élection. On ne peut pas l'accepter.
Alors, il y a eu quand même des ministres qui étaient garagistes. Celui qui s'est suicidé, le premier ministre qui s'est suicidé, j'ai perdu le nom. Tu vas m'aider, Michel.
Bérégovoy.
Voilà.
Mais Bérégovoy, il a été
d'extraction
ouvrière. Voilà. Mais après, il a fait les permanences, etc., etc. Devenir un permanent syndical, après politique, devenir un cadre politique. Il n'est pas fait du jour au lendemain. Quand il était garagiste, il ne s'est pas présenté aux élections présidentielles.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, en accueille aujourd'hui Jean-Marc Rouillon, Michel Guéraud.
Alors le titre du film dans lequel vous êtes, c'est « Il faut savoir se contenter de beaucoup », mais on est autour de ces questions un petit peu, c'est la question qui est posée un petit peu aussi dans le film. Il faut savoir se contenter de beaucoup ou bien de peu. Il y a une discussion à un moment avec Noël Godin, qui est votre acolyte dans le film, qui est l'entartreur, pour ceux qui s'en souviennent, qui envoie des tartes dans les figures de people. C'est la question de révolution majuscule ou révolution minuscule. Quand on est si bas comme ça, dans une phase réactionnaire, comme vous dites, qu'est-ce qu'on fait puisque les partis ne sont plus là, le grand soir apparaît très loin. Est-ce que les petits pas et quels petits pas il faut faire dans ce cadre-là ou non, il faut encore viser le grand.
Il faut toujours viser grand, toujours. Mais je ne pose pas les petits combats aux grands combats, non, absolument pas. Ce qui m'inquiète, c'est l'orientation de ces petits combats. Moi, je veux bien que, par exemple, on a des défendre, comme à Sivens, et il y a un jeune qui est mort là-bas, qu'on défende les prairies humides et deux races de batraciens, et qu'on se batte et qu'on se fasse tuer pour ça. Et je le conçois comme moment du combat, comme formation de jeunes, et on a vu leur naïveté. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient se faire tuer. Mais pourquoi leur naïveté? Parce qu'ils ne se rendent pas compte que le système est lancé. Et si le système est capable de mettre des parachutistes dans la rue, il est capable d'aller beaucoup plus loin. Mais on ne se prépare jamais à un autre combat. On dit, bon, ouais, les carottes bio, c'est super, on va faire un petit jardin et ça sera une forme de résistance. Non. La résistance, c'est autre chose. C'est une préparation à un autre combat. Mais... Il y a des camarades qui ne peuvent faire que ça. mais qu'ils le fassent. Mais on n'oppose jamais l'un à l'autre. Parce que généralement, on nous donne beaucoup... Quand je suis sorti de prison, on m'a donné beaucoup de leçons. Il y avait vraiment des formes d'autonomie qui étaient... Puis je me suis aperçu quand même que depuis des années, peut-être deux décennies, on présente des petits trucs comme qui vont apporter quelque chose, mais on n'apporte rien. Parce que s'il y a les parachutistes dans la rue, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la carotte bio, au lieu d'aller se bastonner contre l'état d'urgence. Il y a des gens qui font des trucs vraiment sympas. Oui, mais à 20 ans de trucs sympas, ça nous a amené les parachutistes dans la rue. Il y a un moment où il faut...
C'est ce que vous appelez les pépères de la protestation, c'est ça ?
Oui, les pépères, c'est ceux qui... Mais moi aussi, je suis un pépère. Maintenant, je commence à être un peu à la retraite, donc je suis un peu pépère. C'est difficile d'être militant révolutionnaire à plein temps aujourd'hui, parce qu'on n'est pas des révolutionnaires
Alors,
à plein temps.
Alors, eux vous rétorqueront qu'on n'a jamais connu de révolution qui a vraiment réussi, et que mieux vaut procéder par étapes et ne pas attendre le grand soir pour expérimenter... l'autogestion, expérimenter des alternatives, construire une société différente, peut-être à côté du système, et peut-être essayer de faire de boules de neige. Hein, c'est la logique qui est celle de ces mouvements-là.
Oui, oui, oui. Je suis pas... Comme je dis toujours, je condamne pas. Moi qui ne me condamne pas, qui ne condamne pas ceux qui essayent de faire autre chose, de prendre une autre voie, mais moi je les condamne pas.
Un mot quand même sur l'échec historique et systématique des grandes révolutions qui finissent, comme le nom l'indique, par revenir souvent pas forcément au même point, mais pas très loin.
Oui.
Enfin,
oui.
Sans remonter à la Commune, etc., contentons-nous de mai 68 déjà.
Le monde marche quand même... l'idée révolutionnaire fait son chemin à travers nos victoires et nos défaites, et surtout à travers nos défaites. Mais... Je veux revenir à la vieille idée marxiste. Nous, on occupe le terrain, on prépare. Ce n'est pas nous qui ferons la révolution. Aujourd'hui, contrairement aux années 70 et au passé, la classe prolétarienne est l'immense majorité de la planète. Pour la première fois, les paysans ne sont pas la classe la plus nombreuse de la planète. La première fois depuis le néolithique. C'est un bouleversement, personne n'en parle. Ce qu'écrivaient les socialistes au milieu du 19e siècle, qu'un jour, il va se trouver deux classes, parce qu'ils avaient compris le mécanisme du capitalisme. C'est impensable de l'avoir écrit sur du papier, en disant, les mécanismes du capitalisme étant tels, un jour, nous allons trouver deux classes face à face. La bourgeoisie puissante, monopoliste, impérialiste, et un prolétariat mondial. Et ça, c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Et aujourd'hui, deuxième fait très important, c'est que depuis les années 70, la population mondiale est urbaine, majoritairement urbaine. Et ça aussi, c'est-à-dire la lutte, la guerre révolutionnaire, la guerre civile se passe dans les villes, entre périphérie, banlieue, Et les centres des villes, les centres blancs, les centres... Voilà.
Alors rebondissons là-dessus, on parle d'urbanité, de périphérie. Marseille, ces quartiers qui sont dans la ville, mais quand même en périphérie. Hein. On s'étonne aussi, on s'étonne de voir cette ville très prolétarisée, particulièrement calme, y compris quand ça s'enflamme ailleurs. Une analyse de cette spécificité marseillaise ?
Oui, parce que Marseille s'est enflammée à des moments où c'était particulièrement calme ailleurs. Et je pense à des émeutes de Docker, par exemple les luttes contre à Gardanne ou à Fos. Il y a eu des luttes très importantes. Les luttes les premières luttes des OS émigrés se sont faites dans cette région.
Mais là, vous parlez dans le cadre déjà encore industriel, hein, avec des syndicats, avec des... Moi, je pensais au quartier, plutôt.
Oui, et en 2005, on a été surpris par le silence des Marseillais. Mais c'est plus facile de combattre dans une ville où on est vraiment un ghetto. Mais c'est difficile d'être dans un ghetto à Marseille. Parce que tous les quartiers sont des ghettos. Il n'y a pas cette confrontation aussi...
Enfin, il y a des ghettos de riches qui regardent les ghettos des pauvres, quand même. Il y a une réalité entre les Catalans et le 15e arrondissement.
Oui, non, il y a un quartier ou deux, mais disons que les riches, majoritairement à Marseille, ont quitté la ville depuis le 19e siècle. Le centre, c'est plutôt Aix, qui est beaucoup plus bourgeois. Mais... Non, il y a des multi-raisons, mais c'est difficile de dire pourquoi n'ont pas bougé les quartiers. Parce que tout le résumé entre... Oui, c'est parce qu'il y avait du deal de drogue et que les dealers ne veulent pas que les quartiers s'enflamment.
Godin est même allé jusqu'à dire que...
Qu'il y a du soleil ici.
Le soleil et la mer ont fait que les gens ne sont pas révoltés.
Ça, c'est la simplification toujours des réponses au tac au tac, mais... La politique, c'est beaucoup plus complexe que des sentences. Parce que même les dealers sont aussi révoltés que, même s'ils ont de la thune, plus de thune que les autres gamins du quartier, ils sont aussi révoltés. Par exemple, on en revenait tout à l'heure à Daesh. La grande force de Daesh par rapport à Al-Qaïda, c'est-à-dire que les militants d'Al-Qaïda en prison ne serraient pas la main à un dealer de cam. Pour eux, il était le diable. Daesh a dit non. Toi, jeune, tu résistes par en faisant ton deal de t'es quand même à quelqu'un qui peut être sauvé. Pour Al-Qaïda, non. On devait lui couper les deux mains et c'est tout. Il n'y avait que ça à faire.
Vous voyez une forme de résistance, Jean-Marc Rouillant, dans le fait de dealer de la drogue ou de vendre de la drogue?
On résiste à la faim. Déjà, c'est pas mal. On résiste à la misère. C'est pas mal.
D'autres pourraient vous dire, on ne meurt quand même pas de faim en France. Il y a quand même des minima sociaux qui font que vous n'êtes pas obligé non plus de dealer pour survivre.
Dans les quartiers populaires, il faut voir la misère. Il faut voir la misère. Et s'il n'y a pas ces réseaux informels de petits voleurs, de petits... Mais qu'est-ce qui se passerait? Ça serait l'explosion. D'ailleurs... On présente qu'on fait une guerre totale à la drogue. Non, pas du tout. Pas du tout. On attrape de temps en temps un réseau. Qu'est-ce qui se passe quand un réseau dans les quartiers nord se fait arrêter? Deux mois après, les services sociaux de tout le quartier sont inondés de demandes d'aide. Et voilà, c'est tout. Et après, le vide se remplit de nouveaux dealers. Et la cité refonctionne normalement, plus ou moins normalement.
À Marseille, il y a une collusion entre le personnel politique et jusqu'aux petits dealers. Enfin, on est dans nos mécanismes.
À Marseille, il y a des collusions généralisées, globalisées. Non, on va pas rentrer dans les détails.
Si, rentrons-y justement dans les détails. Il y a une classe politique ici qui vit, qui travaille en vase clos, puisqu'il y a très peu de nouvelles têtes. Paradoxalement, les gens sont totalement dépolitisés, il y a un clientélisme. Donnez-nous votre regard, vous, sur cette ville et sur cette classe politique marseillaise.
Quand on est un peu étranger, quand même, ça surprend, ça fait rire. Quand on voit qu'il y a des élus locaux qui font construire les commissariats de police et les gendarmeries par deux grandes figures du banditisme marseillais, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, c'est impensable, ailleurs.
Vous faites référence à qui, là?
Aux frères Barézi, ils ont été poursuivis pour ça. Non, il n'y avait pas... Et donc, ça veut dire jusqu'au commissariat de la banlieue d'Avignon qui a été construit par... Mais non, mais qu'ils en profitent, de toute façon. Moi, je ne veux pas les condamner non plus, pas du tout. Je suis là aussi. Qu'ils en profitent. Si telle est la loi du milieu marseillais, qui est globale, ça va des élus jusqu'aux petits dealers en bas, ben voilà.
En même temps, dans les années 70, le milieu marseillais n'était pas plus altruiste, révolutionnaire qu'aujourd'hui.
Il était
dans un égoïsme de...
Oui, mais tous encartés au service d'action civique de M. Pasqua. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier que la French Connection était un moyen de financement d'un parti de droite, aujourd'hui très respectable, qui s'appelle Les Républicains.
Non, c'est plus le cas aujourd'hui, vous avez pas des informations sur
non,
le trafic
non,
de drogue
non, non.
Et puis
je ne les donnerai pas à la radio. Non, je ne collaborerai pas, même dans l'information sur les milieux.
Michel.
On pourrait parler aussi de fer et du banditisme, oui, en remontant un peu plus loin dans le temps. Pourtant, vous dites que Marseille est douce à vivre. En tout cas, pour vous, c'est la ville la plus accueillante. Pourquoi ?
Moi, je sortais de 25 ans de cabane et je ne me voyais pas revenir dans des lieux que je connaissais, que j'ai connus par le passé. Et Marseille, moi, ça a été un coup de cœur, je m'y suis senti bien dès le deuxième jour. Et je crois que, ouais, il y a la mer et le soleil, quoi, mais non, mais c'est surtout les gens, quoi. C'est surtout se balader à Belzun, c'est surtout, on peut être autre qu'un blanc, quoi. Et je pense que c'est super bien d'être autre chose qu'un blanc.
Vous savez que le tiers-mondisme n'est plus à la mode, Jean-Marc Rouillon.
Ben oui, moi je m'en fous, je ne suis pas les modes. Si les modes, c'est s'habiller en treillis, se balader sur la canne-bière avec un fusil d'assaut, c'est pas ma mode.
Michel ?
Alors, je ne veux pas vous ramener derrière les barreaux, loin de là, mais la question de la prison, de l'univers carcéral dans cette situation politique dont on parle là, depuis le début de l'émission, c'est anecdotique ou en fait c'est beaucoup plus central qu'il ne le semble pour le commun des mortels, des citoyens français ?
Mais toujours, la prison a été au cœur de nos sociétés. Elle n'était pas, elle apparaissait pas comme au cœur de nos sociétés.
Vous n'avez pas hésité à parler de torture en prison.
Oui, moi je parle de torture, oui, c'est une torture destructrice. La prison, c'est la terreur qui pèse sur les classes populaires. Il y a très longtemps, pour les amener au travail. Et aujourd'hui, pour simplement se contenter du chômage et du désœuvrement. La prison, elle est là. C'est d'abord une terreur d'une classe sur l'autre. D'ailleurs, on va en prison, on va se rendre compte immédiatement que elle est réservée pratiquement exclusivement aux gamins des quartiers populaires, actuellement. La prison est devenue colorée parce que ces quartiers sont devenus colorés. La prison, comme destruction de masse, parce que... Bon, on ne va pas revenir sur les chiffres falsifiés de l'administration pénitentiaire. Et depuis 20 ans, mort de maladie 120, mort par suicide 120. Donc ils ne se font pas chier, ils ne vont pas sortir les calculettes, c'est toujours les mêmes. Et il faut voir le nombre de personnes qui meurent en prison, qui en sortent avec des séquelles irréversibles. Et le mal qu'elle fait à la société entière. Parce que quand même, s'il y a une structure qui reproduit la récidive, c'est bien la prison. De toute façon, si la prison ne reproduisait pas la récidive, il y a longtemps qu'ils auraient changé de système. Ça, c'est évident.
La prison comme lieu de réinsertion également, vous avez parlé dans une de vos interviews, vous avez évoqué des moments positifs également en prison.
Mais oui, la solidarité, les coursives, la résistance contre... En prison, si on ne résiste plus, on crève. Donc c'est toujours une résistance, et ça ne peut pas être une résistance individuelle, c'est une résistance collective. Sourde, rarement affichée, mais elle existe. C'est la solidarité quand vous arrivez au Baumette, qu'on vous amène un sac de bouffe. Vous êtes seul, vous êtes isolé, vous voyez arriver un sac de bouffe. D'autres prisonniers se sont mis ensemble pour vous nourrir au minimum le temps que vous puissiez cantiner, etc., etc. Donc on ne demande pas qui. Ça arrive, voilà. C'est l'expression de cette résistance sourde des prisonniers.
En même temps, c'est la reproduction de ce qu'il y a de plus darwinien dans le monde, la prison. C'est le monde de chacun pour soi, du plus fort, de la hiérarchisation à l'extrême.
Pas du tout. Il y a des très forts qui tombent en prison. Il n'y a pas... Bien sûr, si on est très costaud, on résiste plus que le petit mec, là, qui a des problèmes, qui s'est mal tenu dans son dossier ou tout ça. Il y a toujours des problèmes. Je trouve ridicule qu'on se... une fois, j'avais posé des questions pourquoi les jeunes s'étaient attaqués en Toulonnais ou en Avignonnais. Oui, c'est parce qu'il est d'Avignon. J'ai dit, mais c'est quoi ces conneries ? Aller tabasser un mec parce qu'il est d'Avignon et qu'il est au Baumette. Des fois, il y a des phénomènes de masse comme ça, mais c'est le mauvais côté des choses. Mais aussi, il y a du bon côté. Il y a du bon côté.
L'état d'urgence aujourd'hui, on parlait avant ces événements du mois de novembre, on parlait de l'état des prisons. Il y avait même un début de prise de conscience de l'état lamentable de certaines prisons en France, des conditions de détention. Aujourd'hui, l'état d'urgence semble avoir mis un couvercle sur toutes ces questions-là. Ça va durer ?
Oui, on a salué le départ de cette ministre de...
Madame Taubira.
De Taubira, oui. Et qui aurait fait plein de choses. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Sur l'état des prisons, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Il y a autant, sinon plus, de prisonniers. Elle n'a pas ouvert les portes dans les centrales de sécurité. Réouvert qu'avaient les portes qui avaient été fermées à l'ère de Sarkozy. Non, bon, c'est du cinéma tout ça. On ne prend pas la réalité des prisons à bras le corps. Il y a énormément de détenus qui n'ont rien à faire en prison. Et il suffit d'une décision politique pour ça. On l'a vu quand ils ont dit, bon, quand quelqu'un est condamné à 4 ans, s'il a un travail, s'il a... Il s'est opposé une kyrielle de personnes de plus en plus réactionnaires pour ramener cette loi à 2 ans. Seulement 2 ans. Et il y a des gens, pour quelques mois, qui se retrouvent en prison et qui perdent leur travail, souvent leur famille, leur femme, etc., etc. Et ces mecs se retrouvent ou ces femmes se retrouvent sur le trottoir, démunis, et qu'est-ce qui restera ? Ces copains de prison, c'est tout.
Alors par contre, on entend le gouvernement, l'État, s'inquiéter d'une radicalisation possible d'un certain nombre de personnes en prison, et d'islamisation aussi. C'est la préoccupation du moment.
Vous l'avez vu,
ça, vous l'avez constaté ou, ça
Mais bon... c'est historique. Une fois que des prisonniers politiques rentrent en prison, en nombre, on l'a vu au début des années 70, ça a mené une grande politisation des détenus. Si tout le mouvement des émeutes dans les prisons en France... des années 70, c'est basé sur l'entrée des prisonniers politiques en nombre. Il est clair que plus il y a de prêcheurs islamistes en prison, plus il y aura d'islamistes. Donc, quelle est la solution ? Pour les prêcheurs les meilleurs, disons, on les condamne à l'isolement. Et c'est ça. Après, c'est la torture. On n'a pas, ils n'ont pas de solution, ils n'ont aucune solution.
Vous avez croisé, vous avez eu l'occasion de croiser certains jeunes qui étaient en prison.
Moi, j'ai croisé les trois grandes générations d'islamistes, c'est-à-dire ceux du fils chiite, algérien plutôt, milieu paysan, milieu très modeste, mais qui partait toujours en disant on a gagné les élections, ils nous l'ont volé. Donc on doit se battre, on doit résister, comme vous en 40, etc., etc. Bon, toujours un discours assez simple, mais pas islamiste, très revendicatif et féroce. Ensuite, il y a eu la génération Al-Qaïda. Ce que j'appelle Al-Qaïda, c'est les années 90-2000. Là, des prêcheurs, des gens très rigoureux, d'un type tout à fait nouveau, plutôt bourgeois. Ou plutôt d'Afghanistan et plutôt orientaux. Et les Daesh, qui sont des gamins de cité, avec un discours pré-construit, assez fragile au niveau du discours, hein, finalement, très fragile même. Et qui sont pour tous les gens qui se battent contre le système, c'est tout.
D'accord. Et vous avez pu échanger avec eux ? Vous êtes confronté sur le terrain idéologique ?
Oui, mais on se voit tous les jours. Ouais. On joue au ping-pong. On ne fait pas des championnats Al-Qaïda, action directe dans les prisons. Mais,
alors, qu'est-ce que Jean-Marc Rouillon dit, par exemple, avec son expérience en prison à quelqu'un qui a pour ambition, finalement, de s'exploser pour hériter de 70 vierges, alors que vous, c'était pour la libération, pour le lendemain qui chante, etc., etc.
Le processus des kamikazes est un processus extrêmement particulier. Je pense que c'est le moment où on n'a rien laissé d'autre que la mort à certaines personnes. Rien, l'histoire des 70 vierges, je n'y crois pas du tout. Mais c'est une forme, le système néolibéral arrive jusqu'à l'ultra-radicalisme de quitter, d'arracher à toutes les populations l'image de leur existence entière, leur image, leur respect, etc., jusqu'à la mort. Et il y a des gens qui disent que c'est peut-être mieux de disparaître comme ça que de continuer à survivre sans...
On sent que vous ne voulez pas mettre même un seul bémol sur la vis-à-vis des gens qui s'engagent dans le fondamentalisme religieux. C'est-à-dire que vous voyez derrière ça...
Non, mais j'en ai marre des poncifs antiterroristes qui se développent.
Je ne parle même pas du...
Les lâches attentats, moi, je les ai trouvés très courageux, en fait. Ils se sont battus courageusement. Ils se battent dans les rues de Paris. Ils savent qu'il y a 2 000 ou 3 000 flics autour d'eux qui... Souvent, ils préparent même pas leur sortie parce qu'ils pensent qu'ils vont être tués avant d'avoir fini l'opération. On voit que quand ils arrivent à réussir une action, ils restent les bras ballants en disant merde, on a survécu à ça. Mais ou les frères Kouachi, quand ils étaient dans l'imprimerie, ils se sont battus jusqu'à la dernière balle. Bon, ben voilà. On peut dire on est absolument contre leur idée réactionnaire. On peut parler de plein de choses contre eux et dire bon, c'était idiot de faire ça, de faire ci, de faire ça, mais pas dire que c'est des gamins qui sont lâches. C'est des gamins qui ont...
En même temps, Jean-Marc Rouillant, je me fais l'avocat... Enfin, honnêtement, il ne faut pas un courage terrifiant pour aller abattre des gens à une terrasse de café. C'est pas des héros.
Non, ça, c'est pas le moment où ils sont héroïques. C'est... De toute façon, est-ce qu'ils sont héroïques? Non, c'est pas... Je m'oppose à ce truc de dire regardez ces lâches, regardez cette propagande étatique qu'on voit dans la bouche des gens qui prétendent s'opposer à l'État. Et ça me fait quelque part, ça m'épuise. J'ai l'impression d'être dans le discours qui reproduit le discours des oppresseurs reproduit dans les gens qui devraient dire non, non, on ne doit pas dire ça.
Alors je me trompe, du coup, je comprends là ce que vous dites, mais j'ai l'impression que de ce fait, y compris sur la visée, hein, oublions les actions, mais sur la visée, c'est-à-dire sur l'idéologie, sur l'objectif fondamentaliste, sur cette espèce de rêve théocratique, vous n'en dites rien non plus.
Non, mais je peux poursuivre sur le je suis persuadé qu'il est impossible dans une radio de dire... ce lâche bombardement de la ville d'Alep par les avions français, ce lâche, parce que quand on est à 5000 mètres d'altitude et qu'on balance des bombes qui vont tomber un peu au hasard, même si elles sont très intelligentes, il y a longtemps que ça se saurait si les bombes étaient intelligentes.
Oui, mais vous critiquez la société inégalitaire telle que le système capitaliste et le système de classe que vous dénoncez, vous en critiquez les valeurs, le mécanisme, l'inégalitarisme. Concernant le projet politique islamiste, fondamentaliste,
toute théocratie, théocratique, pour moi, c'est un régime ennemi. Que ça soit Israël, que ça soit d'autres théocraties, pour moi, c'est des États ennemis. Mais je vais pas faire simplement le résumé aux États théocratiques. Je pense que les États démocratiques, sans démocratie, dans lesquels on vit, sont aussi détestables. Aussi basés sur des croyances qu'on demande leur respect. Parce qu'il faut voir qu'il n'y a pas une discussion sur l'islamisme sans les paroles de la prière, le dimanche à midi, on dit « je ne suis pas terroriste, je suis contre le terrorisme, je pense que ce sont des lâches, etc. etc. » C'est une prière de l'ordre, ça. Ce n'est pas une prière de l'intelligence. C'est une prière qui nous permet de croire que les parachutistes sur la Canebière nous défendent. Non, ils sont là pour nous opprimer, tout simplement.
Un mot peut-être sur un nouveau concept qui a fait son apparition en même temps que les attentats, en même temps que cette mouvance djihadiste, dont on a encore du mal à vraiment lire le logiciel, à comprendre le logiciel. On parle maintenant de déradicalisation. On a l'impression que ce mot, il aurait pu être inventé aussi dans les années 70 pour déradicaliser la gauche de ses idées extrêmes.
Oui, j'ai eu un débat avec un des pères de la déradicalisation sur France Culture. Ça me fait sourire. Bon, c'est évidemment que dans les guerres, surtout dans les guerres coloniales. L'État français a besoin de grands supplétifs, un peu intello. Et on l'a vu dans la guerre psychologique, la guerre psychologique en Algérie.
Le mot est fort quand même, Jean-Marc Rouillet, en supplétif.
Oui, ce sont des supplétifs. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des supplétifs. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir ? Ils veulent obtenir la soumission des gamins de quartier à l'État. Ils veulent les soumettre à la victoire de l'État français sur Daesh, contre Daesh. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ce sont des supplétifs, ils ne portent pas d'uniforme, peut-être le soir, devant la glace, mais en fait, ce sont des mecs qui vont toucher en plus de la thune, des salaires mirobolants, pour aller vendre de la déradicalisation dans les banlieues. C'est un des multiples scandales de ces histoires-là. Quand on sait qu'il y a une commission préfectorale de déradicalisation où du personnel enseignant se déplace pour aller raconter « Oui, dans mon lycée, il se passe ça. Dans mon lycée, alors, non, on a trois individus particulièrement hargneux. Alors, Ahmed, Mohamed et Mekoufi. »
Là, vous parlez de délation, là.
Mais oui, effectivement. Effectivement. Il y a des proviseurs qui vont à des réunions de déradicalisation dans les préfectures. Alors il faut et avec des dossiers d'élèves. C'est ça la laïcité, franchement.
C'est peut-être pas la règle. Alors la question des
non, c'est pas la règle. C'est dans tous les départements, je vous signale.
Si on vous dit éducation nationale, travailleurs sociaux, etc. Vous dites quoi ? Ils font du tricot. Ils servent eux aussi un ordre qu'il voudrait mieux remettre en question radicalement. Oui. Ou alors, vous dites non, ils donnent des outils potentiellement.
Bon, ils font ce qu'ils peuvent.
Critique, peut-être, un pouvoir de pensée critique. Et émanciper les gens, peut-être, non ?
Non, je n'y crois pas, ça. C'est fini. L'école avait les hussards de la République, ça, c'est absolument terminé. L'école sert à formater.
C'est plus un élément émancipateur, c'est plus la méritocratie.
L'éducation, la contre-culture populaire, ça c'est une possibilité de déradicaliser l'islamisme. C'est-à-dire dire aux gamins, tu appartiens à un monde, c'est le monde des pauvres, des opprimés, et ce monde a une vraie culture. Bien sûr que le néolibéralisme a écrasé tout ça, mais ce monde avait une vraie culture de s'opposer au système, de résister ensemble au système, contre le système. Et c'est ça aujourd'hui. La culture a abandonné les pauvres et ils n'ont pas su créer leur contre-culture de ces années-là. Nous, on avait la Beat Generation, nous, on avait beaucoup de contre-culture. Malheureusement, aujourd'hui, l'étouffement de la culture, sa rupture avec le militantisme. Parce que, en fait, créer un art alternatif ou écrire d'une façon alternative, ça ne peut pas être coupé de gens qui résistent, des militants politiques, des gens qui essayent de faire aussi autre chose. Et le néolibéralisme a fait deux insultes, artiste et militant. Et je pense que artistes et militants, on devrait reconquérir l'espace perdu. Et ça aussi, c'est valable pour les gamins de banlieue.
D'accord. Jean-Marc Rouillon, on arrive au terme de cette émission. Dernière question, Jean-Marc Rouillon. En toute franchise, est-ce que vous pensez que changer la société sans violence, est-ce que c'est une utopie pour vous ?
Totalement. Parce que nous avons affaire à une classe possédante qui tient tous les monopoles, dont le monopole de la violence. Celui qu'on ne peut jamais contester. Et que rien ne se fera sans la violence. Mais que la violence ne suffira pas. Il y a des milliers d'autres méthodes pour être révolutionnaire.
Jean-Marc Rouillon, je vous remercie. Allez, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre sujet et un tout autre invité. Bye.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.